à tous, chers amis, chers auditeurs, chers HDRiennes, chers HDRiens, chers amis, pardon, de Gramont. Bonsoir également à nos amis de Principe Actif, c'est le mix des cultures qui nous écoute au 102.4 ou au 95.9, ou à vous qui nous écoutez sur internet de partout dans le monde sur le site Radio HDR. .net, c'est jeudi soir. Le jeudi soir, c'est le meilleur des blablamiques, je trouve. Je ne sais pas vous. En tout cas, on est bien ici, on est tranquille, parce qu'on sait qu'on va retrouver, bien sûr, le fameux agenda qu'on trouve tous les jours et qui nous rassure tendrement à mesure que les jours se rallongent et que, pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis pris d'une folie poétique. C'est certainement à cause de Doc Mansour qu'on retrouvera tout à l'heure et qui nous parlera de choses fort moins poétiques, puisqu'on parlera de Hassan II et d'un nouveau coup d'État qu'il a subi cette fois-ci. De façon un petit peu plus dans l'action. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis on recevra ensuite, ça c'est particulièrement pour vous, chers amis de Gramont, mais c'est pour tout le monde, tous ceux qui aiment l'art en général, les amis de la Yule Company. La Yule Company qui est actuellement sur un spectacle, là, les mots se coincent dans ma gorge, dans le cadre de, si je ne m'abuse, les journées du matrimoine. Et ils vont venir nous présenter ça tout à l'heure, très tranquillement, et puis on en parlera tranquillement. Et en attendant, puisque le terme du soir c'est tranquillement, je propose qu'on s'écoute un tranquille morceau de musique avec Buzzy Signal, Got to Tell You, excusez-moi. I really gotta tell ya. I really gotta tell you, girl, I like your style. Shake up your body, love how you wine, cause you're full of the energy. Wait them on, girl, shake up your body, love it when you go down and wine for me, baby. Wait them on, ah, who that? Girl, that's something that me love it when you do that. Wait them on, ah, who that? Girl, your bumper big, me spot it from a few blocks. Hey baby, say I gotta tell you, yes I gotta tell you, nothing above you, me love you so much. Girl, I know your body so attractive, and you make my body active every time you start me up. It's like zoom, 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 zoom. Girl, where you get your body from? Me want to touch your body. Zoom, 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 zoom. All eyes on you when you are shaking. Wait them on, girl, shake up your body. Love how you wine, cause you're full of the energy. Wait them on, girl, shake up your body. Love it when you go down and wine for me, baby. Wait them on. Ah, who that? Girl, that's something that me love it when you do that. Wait them on. Ah, who that? Girl, your bumper big, me spot it from a few blocks. Peace. Got a few things to say to you. Girl, I love your style and I love the sexy things you do. When you wind your waist, girl, it's like I'm getting deja vu. I know I met you in my dreams once before. It must be you, must be you. Girl, I like the way you set it off. In all your sexy lingerie, you need to get it off. The very moment when you take it off. Girl, whenever you get that body day. Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Girl, where you get your body from? Me want to touch your body. Zoom, 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 zoom. All eyes on you when you are shaking. Wait them on. Girl, shake up your body. Love how you wine, cause you're full of the energy. Wait them on. Girl, shake up your body. Love it when you go down and wine for me, baby. Wait them on. Ah, who that? Girl, that's something that me love it when you do that. Wait them on. Ah, who that? Girl, your bumper big, me spot it from a few blocks. Full of the energy. Wait them on. Girl, shake up your body. Love it when you go down and wine for me, baby. Wait them on. Ah, who that? Girl, that's something that me love it when you do that. Wait them on. Ah, who that? Girl, your bumper big, me spot it from a few blocks. Hey baby, say I gotta tell you, yes I gotta tell you, nothing above you, me love you so much. Girl, I know your body so attractive, and you make my body active every time you start me up. It's like zoom, 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 zoom. Girl, where you get your body from? Me want to touch your body. Zoom, 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 zoom. All eyes on you when you are shaking. Wait them on. Girl, shake up your body. Love how you wine, cause you're full of the energy. Wait them on. Girl, shake up your body. Love it when you go down and wine for me, baby. Wait them on. Ah, who that? Girl, that's something that me love it when you do that. Wait them on. Ah, who that? Girl, your bumper big, me spot it from a few blocks.
17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et les plus fidèles d'entre vous savent déjà l'existence de cette exposition dont je vais vous parler maintenant, puisqu'on en a parlé très très vite avec Monsieur Finot récemment, puisque c'est l'exposition Les Princes de Monaco en Normandie. Alors bon, comme son nom l'indique, c'est une exposition qui retrace la surprenante histoire des Estouteville, donc une grande famille normande qui sont en fait les ancêtres des Grimaldi, les Princes de Monaco. Ce qu'on ignorait, ce qui a entraîné non seulement la visite du prince Albert II de Monaco à Rouen assez récemment, et surtout pas mal de rigolades avec Fino très récemment aussi. Donc il y aura des visites guidées à 14h30 le 15 octobre, le 19 novembre et le 10 décembre. Alors par contre sous réservation, et pour réserver une visite guidée, il faut appeler au 02 35 03 54 95 02 35 03 54 95. Bon, bien sûr, vous le savez si vous nous avez écouté, ça se passe aux archives départementales. Les archives départementales qui, si je ne m'abuse, sont également dans le même locaux que la bibliothèque Simone de Beauvoir, dont on n'a pas fini de parler ce soir. Bon, salut encore une fois les amis de Grammont. Et puis une autre exposition, cette fois-ci, on n'en a pas parlé, et pourtant, quelle a l'air intéressante cette exposition. C'est l'exposition La paix et ses symboles à la bibliothèque Truffaut du Petit Quevilly, donc c'est jusqu'au 26 septembre. Ça commence à arriver, il va falloir commencer à penser à y aller, chers auditeurs. C'est une exposition d'images de masse. Alors, images de masse, c'est quoi? C'est des affiches, des tracts, etc., etc. Des images prévues pour être, bien sûr, produites en masse et distribuées en masse. Et donc, qui sont en rapport avec la paix. Donc c'est une volonté de retracer un petit peu l'histoire de la paix et surtout l'histoire de la notion de paix, de l'évolution de l'image de la paix depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Ça promet d'être fort intéressant. Et puis évidemment, vous le savez, c'est l'heure de la transition. Autre chose qui promet d'être extrêmement intéressant avant la suite de nos programmes, c'est le morceau de musique que je vous ai contacté, puisque ce sera Jacoustics avec Luciano pour leur morceau Stronger.
Jacoustics and a messenger, sending out a message to the world.
Luciano,
words of natural inspiration for each and every one.
Nothing we love is unbreakable.
I'm done
picking up broken pieces. Nothing we dream of is impossible.
Nothing at all.
Hold on, move on, focus.
Yeah.
This battle gets harder.
This battle gets harder.
Why you don't believe you're bigger than this?
Oh yeah.
Why so cold hearted? Only trying to get back on my feet. You used to have
yes. When everything
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Les amis anglophones auront compris que cette chanson est tout à fait appropriée à ce qui vient, puisque ce qui vient tout de suite, c'est la chronique du docteur Mansour qui va vous parler des aventures, cette fois aériennes, du roi Hassan II qui, décidément, est soit sacrément chanceux, soit sacrément malchanceux. Donc rebonjour, cher Doc Mansour, on se retrouve donc pour cette petite chronique histoire. Nous parlions la semaine dernière, vous nous faisiez le récit passionnant d'une tentative de coup d'état contre Hassan II, et là on est en train de parler un petit peu de petites affaires qui impliquaient un certain monsieur Oufkir, personnage fort intéressant.
Oui, intéressant, né aussi dans les Atlas, et fort courageux, qui a servi aussi en armes dans l'armée française. Il a eu tous ses grades, très proche d'Hassan II, qui l'a sauvé. Et en fait, là Oufkir, du fait que trois de ses amis ont réellement été tués gratuitement, il va en garder une espèce de petite rancœur vis-à-vis de Hassan II.
Est-ce qu'il est si fort que ça, ce Hassan II, qui finalement a l'air de quand même souvent se mettre à dos les gens qui lui sont loyaux ?
Il est très fort en diplomatie ou, on va dire, même en stratégie et autres politiques, il est extrêmement fort. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la même époque, au moment où il y a eu le coup d'état de Skerrat, tentative, on va se rendre compte que, en fait, Oufkir connaissait déjà une grande partie. Et le problème, on va reprocher quelque chose à Oufkir. Et ça, ce sera la deuxième
vexation.
Oui, c'est qu'en fait, il était très très proche de Medbou. Ils étaient même amis.
Ça, c'est, je m'y attendais pas.
Et une des filles de Medbou avait une relation avec le beau-frère d'Oufkir.
Ouais, c'était presque la famille, quoi.
Voilà, ils se voyaient souvent, ils avaient des activités ensemble. Donc là, il y a même certains des concurrents ou des jaloux vis-à-vis d'Oufkir qui diront « Oufkir ne pouvait pas ignorer ce que son ami préparait ».
Il aurait été impliqué dans toute cette histoire.
Certains commencent à le dire. Oufkir s'en défendra. Hein. Mmh. Il disait « Oui, mais dites ce que vous voulez, qui a sauvé le roi ?»
Oui, la semaine dernière, vous nous disiez qu'il il était au courant beaucoup trop facilement d'où étaient certains conjurés.
Voilà.
En fait, il aurait su puisqu'il faisait partie de la conjuration.
Ça reste un grand suspense par rapport à ça.
C'est d'accord.
S'il en a fait partie, qu'est-ce qui fait qu'il a changé du tout au tout au dernier moment ? Et s'il n'en a pas fait partie, c'est que son système d'interrogatoire est très express.
Ouais, puis ça expliquerait aussi pourquoi le roi cherche également à le punir.
Quelque part ou à l'avertir.
Ouais, c'est bien étrange cette histoire.
Donc, à peu près 13 mois après, parce qu'il ne faut pas oublier que Oufkir, non seulement juste après ce fameux coup d'État, il s'est passé plusieurs mois d'enquête où il a interrogé lui-même des conjurés.
Oui, donc il aurait pu se protéger.
Et ben en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va non pas se protéger, mais en protéger quelques-uns.
D'accord.
Dont le chef de l'armée.
Par sympathie personnelle ou par intérêt ?
Un peu des deux. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va s'attirer les bonnes grâces, et en fait, quelqu'un qui lui devra beaucoup, c'est le chef des armées.
D'accord.
Qu'il laissera partir en liberté, et depuis, les deux hommes se fréquentent un peu plus. Et là, il se prépare un plan qui est bien désigné. Mais Oufkir va avoir une troisième vexation entre deux. Et je pense que là, c'est un peu plus de la parano de sa part ou de la méfiance. Un jour, le roi Hassan II le fait venir d'urgence. Il lui fait parvenir un hélicoptère. Tout se passe bien. Et au moment de l'atterrissage, il n'atterrit pas au bon endroit. Il atterrit dans un autre endroit où il y avait un volume de sable qui est monté en l'air et qui a un peu enrayé le moteur. Donc ça a failli s'écraser. Tout le monde dira que c'est un accident. Oufkir dira non.
Non, c'est un attentat.
Il dit c'est une tentative d'assassinat ou un avertissement que le roi me lance.
Ouais. C'est vrai que ça part un peu tiré par les cheveux.
Voilà. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais je pense que vu les relations qu'il commençait à avoir entre les deux, c'est un peu ambigu.
Ah, disons qu'il est temps qu'il prenne sa retraite, quoi.
Voilà. Et en fait, à la même époque, il y a le roi Hassan II met en place le fameux ban de Tazmamar qui officiellement n'existe pas. C'est un des bans les pires du Maroc. Hein. Si vous y allez, vous ne ressortez pas vivant. Ou sinon, en très mauvais état. Il sera rasé qu'en 92. Hein. Donc, beaucoup d'hommes vont y aller. Mais là, cette fois-ci, Oufkir prépare un nouveau plan.
Ok.
Il dit, il faut intercepter Hassan II, quitte à l'éliminer.
Pour prendre le pouvoir ou par vengeance ?
Les deux.
Ouais, d'une pierre deux coups.
Vengeance et prendre le pouvoir. Et en fait, bon, alors, à l'époque... le roi Hassan II, on est en plein du mois d'août, on est en France, il passe ses vacances en France. Il doit prendre son avion le 16 août. Et en fait, il voulait pas trop partir tout de suite parce qu'il voulait voir le film L'Attentat. Alors L'Attentat, c'est le film qui est inspiré de l'affaire Ben Barka.
en plus.
Voilà.
Quelle ironie.
Et en fait, du moins, on lui fait comprendre que non, vaut mieux pas. Mais depuis un an, il est avec un garde du corps qui est l'ancien garde du corps du général de Gaulle, qui le surveille nuit et jour.
D'accord.
Donc il fait appel à la France pour le protéger. Donc il y a des histoires de méfiance entre eux, les uns et les autres. Donc il prend quand même son avion, mais au Maroc, il se prépare, on prépare à l'armée une opération, on dit, voilà, il y a l'aéroport de Knetra et Rabat, et en fait, il y a une base qui est là, où c'est les Américains qui gèrent, normalement. On va juste dire aux Américains d'aller voir ailleurs si on y est, ce qu'ils feront gentiment, parce que ils disent, quand les états-majors marocains disent, on a des opérations à faire, nanana, ils disent, oui, bah allez-y, ils avaient l'habitude.
Pas d'implication américaine dans cette conjuration.
En tout cas, pas de l'armée américaine.
D'accord.
Donc, le pilote de l'avion du Boeing, lui, prépare son plan de vol. D'ailleurs, c'est un pilote très doué. Pour l'instant, on a trois pilotes de F-5 qui se préparent à décoller. Dès que l'avion, le Boeing, sera sur le territoire marocain, décolleront et devront éliminer l'avion.
C'est pas très élégant comme façon de procéder.
Non. Non, pas du tout. Mais bon, cette fois-ci, ce truc-là, c'est Oufkir qui l'organise.
Oui.
De A à Z, avec tous ses complices.
Donc quelqu'un qui s'encombre pas trop de considérations morales comme aurait pu le faire un Medbou, par exemple.
Non, parce que là, il y a une vengeance.
Oui, en plus.
Ce qui est totalement différent. Donc, une fois que l'avion arrive vraiment au Maroc, en fait, le pilote de l'avion va faire quelque chose qui n'était pas prévu. Qui, en fait, va encore faire en sorte que le timing soit encore décalé. Il va demander, à partir de Knetra, de faire un détour, de ne plus prendre le même couloir aérien, mais d'en prendre un autre qui est légèrement plus en biais. Ce qui lui fait gagner 8 minutes. Mais quand vous êtes en avion et que vous êtes obligé de faire une opération militaire...
8 minutes, ça change tout.
C'est énorme.
Ouais.
C'est comme si on disait que vous devez faire une marche de 2 heures de plus que ce qui était prévu. Et en fait, là, les F-5 sont obligés de réagir au plus vite.
Ouais.
Parce qu'ils se rendent compte que l'avion est en train de se décaler.
Ouais.
Ils lui tirent dessus. L'avion est très endommagé. Hassan II n'est pas blessé, mais son garde du corps est blessé. Un autre officier aussi. Et c'est là qu'on ne pourra pas retirer quelque chose à Hassan II malgré tous ses défauts. Il fait preuve d'un courage et d'un sang-froid hors norme.
Faut dire qu'il commence à connaître. Hein.
Oui, mais là, c'est même lui qui va dans le cockpit rassurer le pilote.
D'accord.
Parce que le pilote, c'est pas qu'il est en panique, mais là, il se dit, on nous tire dessus.
Mais il a une chance extraordinaire tout de même. Cela, c'est pas une question d'avoir été prévenu ou quoi, c'est vraiment de la chance pure et brute.
Totalement. Donc, quand les balles sifflent, donc, un des avions, en fait, ça s'enraye. Donc le pilote, il fait ce qu'il peut, étant dans son F-5. Le pilote essaie d'appeler au secours, mais apparemment les machines sont un peu trop endommagées. Le pilote décide de le faire atterrir, mais pas dans le bon aéroport, c'est pas grave. Ouais. Pas dans le même couloir, alors que l'avion est endommagé. Il est quasiment en chute libre.
Ouais.
Le pilote fait ce qu'il peut. Mais le pilote garde son sang-froid, et le roi a l'intelligence à ce moment-là de dire au pilote, dès qu'il y a une communication, tu dis que je suis gravement blessé.
Pour que tout de suite on envoie des secours.
Ça, bon. Et puis espérant que les assaillants arrêtent.
Oui, pour leur faire croire que c'est bon, quoi.
Voilà, ce qui est plutôt judicieux.
Intelligent, ouais.
Ouais. Sauf que les assaillants n'arrêtent pas.
Bon, oui. C'est quelqu'un qui aime bien le travail bien fait, ce monsieur.
Oui, très déterminé. Lui, pour l'instant-là, il a pris le contrôle des aéroports et de plus, avec tous ses militaires.
C'est voilà. Comme ça qu'on fait traditionnellement, ouais.
Voilà. Lui, il a très bien organisé son truc, malgré les 8 minutes de retard et... quelques disputes avec les uns et les autres à cause de ces fameuses 8 minutes, parce que bon, ça crée des tensions.
Pour l'instant, il n'a pas de chance, mais ça se passe pas si mal que ça.
Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des pilotes qui va décider, avec les boîtes noires, on a retrouvé ça, qui comme il n'a plus de munitions, décide de foncer sur l'appareil, sur le Boeing.
D'accord.
Bon, il le loupe.
Quelqu'un de déterminé. Bon, ouais. Déterminé plus que compétent, du coup.
Oui, il le loupe de justesse. Mais Hassan II arrive à atterrir avec un appareil en piteux état. Donc là, c'est le travail du pilote, on va dire, qui est quand même extraordinaire à ce niveau-là. Hassan II s'en sort plus ou moins bien. Une partie des militaires qui étaient là, en fait, n'étaient pas au courant de ce qui se passait, se rendent compte que c'est le roi, ils ne comprennent plus rien.
Ça a dû leur faire une drôle de surprise, oui.
Voilà. Cette fois-ci, le roi soupçonne directement Oufkir.
Oui, bon, on peut le comprendre. Hein.
Parce qu'il fait des liens entre ce qui s'est passé avant, les discussions qu'il y a eu, ce qu'il a entendu. D'un seul coup, en fait, tout se remet en place dans sa tête. Une fois qu'il est... véritablement arrivé, il fait une allocution assez rapide, très rapide. Il dira rien parce qu'il en fera une autre un peu plus tard qui est encore plus...
Oui, peut-être quand les choses se seront calmées.
Pas véritablement. Il donnera des explications dont personne ne comprendra vraiment le sens.
D'accord.
Tout est un peu...
cryptique.
Voilà. Et à partir de là, il fait plus ou moins convoquer Oufkir.
Oui.
Mais Oufkir était déjà prêt. Donc Oufkir rentrera chez lui, se lavera, changera d'uniforme.
Bon, il s'attend à être sévèrement châtié, j'imagine.
Oui, mais avant de partir, il appelle sa femme, ses enfants. Il leur dit que tout se passe bien, qu'ils se reposent, qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Parce qu'il n'était au courant de rien, sa famille. Ouais. Et il se rend au palais. Il discute avec le roi. Et là, après, entre guillemets, une altercation, il aurait pris 3 balles.
Ce serait Hassan II qui l'aurait tué lui-même ?
Non, c'est 2 généraux qui étaient avec lui.
D'accord.
Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais dit que c'était qu'il avait pris des balles perdues. On a dit que c'était un suicide. Mais bon, un suicide avec 3 balles, moi, je veux bien y croire, mais...
Un suicide avec 3 balles en présence de 2 généraux et du roi. D'accord. Un suicide à la Alien Day, quoi.
Voilà. Un suicide assez ambigu.
Ok.
On dira même... Alors, certains diront que c'est un suicide de trahison.
Ouais, on peut comprendre.
Ou d'autres diront, en fait, comme il a eu une altercation, les 3 balles étaient un châtiment divin.
Oh bah oui, oui.
Donc, c'est la fin d'Oufkir à ce moment-là. Le roi fera une allocution expliquant le complot, comment ça a été fait, mais il nommera pas Oufkir. Jamais il donnera son nom.
Par sympathie, par quelque intérêt qui m'échappe ?
Non, parce que le roi Hassan II, à partir de là, décide non seulement que la punition ne sera jamais finie, parce qu'Oufkir sera enterré totalement dans le secret, le dénuement le plus total.
D'accord.
Avec interdiction de cérémonie religieuse.
Il veut pas que son nom passe à la postérité.
Voilà. Mais en même temps, il se vengera sur la famille d'Oufkir qui sera emprisonnée en résidence surveillée.
Résidence surveillée, ça va.
Non, mais ils étaient emprisonnés pendant plusieurs années avant.
D'accord, bon, c'est fort peu sympathique de la part de Monsieur le Roi.
Oui, d'ailleurs, c'est dans les années 92 où la famille d'Oufkir viendra se réfugier en France.
D'accord, on peut comprendre aussi.
Donc Hassan II a échappé à tout ça.
Quel regard la France porte sur tous ces attentats contre le roi Hassan II ?
Alors le premier coup qui avait échoué dans les années 60, c'est pas grave. Alors d'après ce que j'ai lu, parce qu'à l'époque c'était le chef du renseignement français, c'était Xavier de Maranche, ça les a surpris.
Ouais.
C'était inattendu. Mais surtout inattendu pour plusieurs raisons. Un, la tête, Medbou, l'homme le plus fidèle.
Royal, ouais.
Le plus loyal, le plus silencieux, qui n'a jamais fait de bruit. L'ampleur que ça a pris, parce que plusieurs centaines de camions armés avec des soldats, les complicités étaient absolument à tous les niveaux. Et les Français ont dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? De l'autre côté, les Américains observaient ça de très près, quand même. Bon, à l'époque, les Américains voyaient Hassan II comme un roi fantasque et pas très sérieux.
D'accord.
Bon, ils auraient été contents de s'en débarrasser, vu qu'à l'époque, c'était un peu la mode que les généraux se débarrassent des dictateurs et des royautés arabes.
Oui, on va ne pas faire de commentaires sur cette situation.
Cette petite habitude.
Effectivement.
Donc en France, en fait, quand ça s'est passé, je vous ai dit, il a fait appel aux gardes de sécurité français. C'était un des anciens gardes du corps du général de Gaulle qui surveillait... qui prend les gardes du roi Hassan II.
Donc la France n'a pas les mains sales dans cette histoire, au moins.
Non, elle l'a regardé de très loin.
D'accord.
Par contre, les Américains se les auraient arrangés.
Ouais, et ils auraient été directement impliqués, ou disons qu'ils auraient regardé sans rien faire ?
Regardé sans rien faire. Parce que, avec les rapports qu'il y a eu, non, ils auraient peut-être profité de la situation.
Parfois, la vie fait le travail tout seul, finalement.
Voilà, juste peut-être donner un coup de pouce, on ne sait pas trop, mais... en tout cas, ils étaient observateurs dans cette histoire-là. Et quand Hassan II, à partir de là, alors, Hassan II, on sait ce qu'il a été, il a quand même été très dur pendant toute une période. À partir de là, il prend une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus internationale. Il est beaucoup plus pris au sérieux.
C'est-à-dire ?
Et bah, curieusement, ça l'a fait grandir. C'est-à-dire qu'il a eu une maturité d'un seul coup.
On peut comprendre.
Parce que avant ces deux tentatives de prise de pouvoir, de coup d'État... Il y a juste à regarder les photos, on le comprend. Il avait des costumes un peu en velours, violet, un peu plus fantasque. Et juste après, il change du tout au tout. Beaucoup plus simple, beaucoup plus strict.
Uniforme militaire, non ? Moi, j'avais l'image d'Hassan II en uniforme militaire.
Oui, quand il y avait les parades.
D'accord.
Parce qu'il est quand même le chef des armées globales.
On parlait tout à l'heure de Nasser, rapport au coup d'état de Medbou. Nasser, comment est-ce qu'il voit l'échec de ce coup d'État ? Comment est-ce qu'il voit... Je me rappelle même plus des dates de Nasser, je m'en excuse, cher Doc Manson. Comment Nasser vit ça ? Comment l'Afrique du Nord vit ça, en général, d'ailleurs ?
Bah, du fait que ça a réussi en Libye, avec Kadhafi.
Oui.
Kadhafi est un militaire qui a pris le pouvoir.
Tout à fait. Hein.
Que ça avait réussi en Égypte, que ça avait réussi en Irak avec Saddam Hussein, que ça avait réussi en Syrie avec Assad,
c'est vrai.
Le père. Et bien curieusement, ça a échoué au Maroc. Nasser a très vite compris que le Maroc était un partenaire, mais pas direct.
Ouais. Le Maroc finalement garde une place très indépendante dans le monde.
Oui, même dans le monde arabe. De toute façon, même dans le monde musulman en général, il est très à part.
D'accord.
Et là encore plus, vu que c'est une royauté qui, quand même, depuis le XVIIe siècle est encore là.
Oui.
Qui perdure, avec un statut particulier pour le souverain.
Donc toujours ce fameux statut de d'émir des croyants, comme vous le disiez il y a deux semaines.
Émir et commandant des croyants, il l'est toujours.
D'accord.
Et quasi intouchable. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 2009, un journal au Maroc avait osé lancer un sondage pour voir la popularité du nouveau roi.
Oui.
Qui était à 80, un peu plus de 90%, le journal a été interdit de publier. Enfin, même pour dire du bien, c'est un peu compliqué.
C'est une façon de faire.
Par contre, le même journal, c'est lui qui avait sorti ça, qu'à l'époque des deux tentatives de coup d'État, le premier ministre de Mohamed VI était partie prenante. Ça a fait un scandale à l'époque.
Oui, on peut comprendre ça.
Oui, et en fait, parce que les partis de gauche et les partis radicaux étaient partie prenante, alors qu'ils étaient normalement ennemis avec l'armée qui avait tué leur leader.
Toujours eux, toujours eux.
Vous voyez bien que parfois, les alliances contre nature peuvent faire en sorte qu'on ait des objectifs communs.
Oui, oui, bah encore aujourd'hui, ça peut se remarquer. Mmh. Bah écoutez, merci cher Doc Mansour. Je vous propose qu'on en reste là. Et puis, est-ce qu'on continuera de parler d'Hassan II une prochaine fois ou est-ce que c'est là la fin de l'aventure du roi Hassan II?
Non, la prochaine fois, on parlera d'un auteur français parce que ça concerne une série de films que j'aime beaucoup.
D'accord, bah merci beaucoup et à bientôt, cher Doc Mansour. Chers auditeurs, je ne vous cacherai pas que je ne vous ai pas annoncé de nom de la Yule Company tout à l'heure parce que je savais que la Yule Company viendrait, en tout cas nous enverrait des représentants. Je m'attendais à la venue de monsieur Ntoyo, qui est un petit peu, si j'ai bien compris, la tête pensante de ce spectacle, et de madame Faget, dont j'ai d'ailleurs cru que le nom de famille était son prénom pendant toute une partie de la journée, pour ne rien vous cacher. Mais la vérité, c'est que la Yule Company est là quasiment dans son intégralité, chers amis, puisque nous sommes avec tout le monde. Nous sommes également avec les comédiennes Sophie Lefay, Lucie Monzi et Adeline Maisonneuve, si je ne prononce pas trop mal vos noms, mesdames, on me fait signe que c'est bon. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose, pendant que la compagnie se prépare à vous esgourdir les oreilles pendant 30 minutes, de mettre un petit peu de musique avec un petit Phonosonics et Leroy Sibbles et Miss Me and Mrs. Jones.
Mrs. Jones. Yes, we've got a thing going on. And we both know it's wrong, but it's much too strong to let it go now, no. Now it's time to believe it. It hurts so much, so much inside. 'Cause now she'll go her way and I'll go mine. But tomorrow we'll meet, same place, same time. Me and
Mrs.
Jones. Me and Mrs. Jones. But this love I can't hide. Me and Mrs. Jones.
Mrs. Jones, Mrs. Jones.
Yeah, yes. We've been loved so long with a love so strong. But we gotta hide. Yeah, yeah. Mrs. Jones. Yeah, yeah. Mrs. Jones. Ah, yes.
Me and Mrs. Jones, vous connaissez bien, je pense, puisque c'est une cover comme on en a plein et comme on vous en réserve plein dans votre Blabla Mix.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Je vais pas vous cacher que ça fait plaisir de voir ce studio si plein de vie. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. On en profite pour saluer l'ami Ousmane qui est en vacances et qui me laisse tout seul m'occuper de l'émission en son absence. On va alors redire bonsoir. Bonsoir à vous, la Yule Company. Bonsoir à vous, Ulrich Ntoyo.
Bonsoir.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes donc l'écrivain du spectacle « Les mots se coincent dans ma gorge ».
Ah ben je me vois pas vraiment comme un écrivain. Je peux écrire une histoire, inventer les accouchés sur un papier, mais je me prends pas vraiment comme un écrivain. Un dramaturge, oui, peut-être je peux l'accepter, mais dire écrivain.
On va y revenir dans une seconde parce que ça va être intéressant. On va également revenir sur cet accouchement de ce spectacle. Alors évidemment, vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais comme je suis d'un gabarit plutôt petit et qu'il y a un écran devant moi, nos invités ne me voient peut-être pas, mais je leur fais signe également. Et donc nous sommes également avec Anne-Sara Faget qui est donc assistante de mise en scène, c'est bien ça Madame Faget?
Oui, c'est ça.
Ouais, bah, enchantée de vous avoir avec nous. Et alors là, c'est la partie compliquée puisque nous sommes avec trois comédiennes certainement de grand talent, mais surtout de trois prénoms différents, ce qui ne va pas me simplifier la vie. Mais je crois que vous êtes vous-même Madame Adeline.
Oui, c'est moi, bonsoir.
Il est incroyable, il est incroyable. En 9 mois, j'ai fini par réussir à retenir les noms. Vous êtes donc Adeline Maisonneuve et vous êtes comédienne dans ce spectacle, c'est bien ça?
C'est bien ça, bonne réponse, super.
Et à votre gauche se trouve, si je ne m'abuse, Lucie Monzi, c'est bien ça?
Oui, c'est Lucie Monziès.
Lucie Monziès, on y était presque, on y était presque, vous devez m'accorder ça. Et donc, c'est la pauvre comédienne que je ne verrai pas de cette interview, je me lèverai tout à l'heure, Sophie Lefay, bonsoir Madame Lefay.
Bonsoir.
Et alors donc, vous le voyez, une ambiance tout à fait réjouissante dans ce studio, ça faisait longtemps. On va parler On se croirait un vendredi sur Radio HDR, chers amis. Ce soir, vous avez les deux pour le prix d'un, vous avez le jeudi avec l'ambiance du vendredi. On va donc parler des mots se coincent dans ma gorge avec la Yule Company. D'abord, est-ce que l'un d'entre vous a envie de nous expliquer très rapidement ce que c'est que la Yule Company?
Ben, la Yule Company, c'est une association loi 1901, mais maintenant avec la compagnie artistique, on dit compagnie de théâtre, qui travaille sur le conte, le théâtre et la marionnette. Donc, nous sommes basés à Gramont, donc en mission avec la mairie, la DRAC, la région. Donc, nous sommes soutenus, installés à Gramont. Donc, on mène des actions culturelles, on crée des spectacles, on organise des événements un peu permanemment à Gramont et un peu ailleurs.
Bon, alors, au-delà du fait que vous êtes un peu le cœur battant de Gramont, de nos amis de Gramont, vous autres de la Yule Company, on vous a surtout invité ce soir pour vous parler des mots se coincent dans ma gorge, les mots MAUX, qui est donc un spectacle avec une sacrée jeunesse, si je ne m'abuse, monsieur Ntoyo. Oui. Je crois que l'heure est venue de plonger là-dedans et de parler de comment ce spectacle est né.
Les mots se coincent dans ma gorge, c'est avant tout un rendez-vous que j'avais avec des femmes allophones lors des actions culturelles qu'on menait ensemble avec le CAPS. Le CAPS qui est basé à Petit-Quevilly. Donc, je travaillais avec 16 femmes allophones.
Vous voulez bien définir rapidement ce que c'est qu'allophone, s'il vous plaît?
Allophone qui apprennent le français et qui n'ont pas le français comme langue d'origine. Donc, du coup, elles apprenaient le français. Elles devraient apprendre le français par le biais du théâtre. Mais en fin de compte, en fait, elles parlaient déjà français. En quelque sorte. Donc du coup, la mission, c'était d'écrire un conte, de le fabriquer des marionnettes et d'en faire un spectacle. Au milieu de tout ça, je me suis retrouvé le seul homme, presque en procès, presque en discussion tous les jours, et elles m'ont raconté leur histoire. Ces histoires-là m'ont traversé. Je n'écris pas dans les mots les histoires de ces femmes-là, non. J'écris ce que moi, comment j'ai été touché, comment ces mots ont traversé mon être, comment la féminité qui est en moi a été interrogée. Comment ça a été bousculé? Donc, je ne suis pas porte-parole de ces femmes-là, mais j'écris les sentiments, la vision que j'ai eue à chaque fois que je finissais l'atelier en sortant des répétitions. Chaque fois que je rentrais sur mon canapé, je dis, j'ai envie de faire quelque chose. Comment écrire un texte sur la femme quand on sait qu'elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup un peu affaiblie, arrêtée, et mal exploitée, et comment dire encore réduit presque au silence depuis des années. Donc du coup, comment moi, en tant qu'homme, comment je peux légitimer cette façon d'écrire à la place, en lieu et place de la femme? Non, je n'écris pas en lieu et place de la femme. Je raconte une histoire de ces femmes-là, de trois femmes. À la base, c'était juste une femme.
C'est-à-dire, si je comprends bien, à la base, ça devait être un petit spectacle.
Un monologue.
Comme ça. Et puis finalement, ça vous a complètement dépassé. Vous êtes retrouvé emporté par ce projet.
Mais parce que je n'arrivais pas, dans la bouche d'une comédienne, retrouver ces 16 femmes. Donc du coup, j'ai fait trois résidences, on l'a lu, on a commencé à monter le spectacle. À un moment donné, presque la production commençait à prendre sa place. Je me suis dit, je ne me retrouve pas dans les propos, je ne me retrouve pas dans les récits. C'est trop violent, c'est trop procès. Je n'avais pas envie de faire un procès sur l'homme que je suis et sur tous les hommes en général. Donc du coup, je me suis dit, faut trouver une forme de pensée qui serait multiple, cette pensée qui pourrait traverser un peu chaque être humain, comment les toucher, comment toucher la sensibilité de chaque être humain, parce qu'en chacun de nous, il y a toujours le yin et le yang, il y a la féminité et le masculin en nous. Donc du coup, comment toucher la féminité et comment toucher le masculin sans mettre en procès l'homme?
Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat et vous demander combien de temps de gestation a-t-il fallu pour porter...
Ça a pris 2 ans.
Deux ans tout de même.
Deux ans avec beaucoup d'essais, avec beaucoup de... Moi, j'ai comme principe, tant qu'on n'a pas essayé les choses, on ne peut pas dire que ça marche. Donc j'essaye, je fabrique le théâtre en essayant, en posant chaque pierre. Et ce texte-ci m'a pris beaucoup de temps parce que c'est une parole vraie, c'est une parole sincère, c'est une parole qui touche. Et quand quelque chose vous touche tellement que vous la couchez sur le papier, parfois vous ne retrouvez pas la force des mots, ce que vous avez envie de raconter. Ou vous êtes à côté, ou vous êtes un peu trop direct, ou la poésie manque. Et c'est ce qui manquait, ouais, tiens, la poésie. C'est ce qui manquait, la poésie dans les mots, la couleur, la beauté. Je crois que je parlais tellement de cette colère, de cette envie de changer le monde. Et pourtant, ce n'est pas le but de vouloir changer le monde ou de vouloir changer les choses, mais de le dire, ce n'est pas mon rôle en tant que conteur, en tant que comédien, en tant qu'écrivain. Non, dramaturge. De donner de leçons, ce n'est pas mon rôle. C'est de raconter une histoire. Et par quel bout rentrer? Aujourd'hui, je peux dire qu'on a trouvé le bon bout. Parce qu'après une résidence avec les trois comédiennes qui m'ont accompagné dans l'écriture, parce que la dernière phase était qu'il fallait que je me lance dans une écriture de plateau. Donc, on a écrit un premier récit, on a essayé, on a discuté, on a débattu, on a fait une sortie de résidence. Et au retour, on a discuté avec les gens qui sont venus voir le spectacle. C'est pour recueillir ces témoignages-là, après ces témoignages, qu'aujourd'hui, on a fini par accoucher ce texte qui est, pour moi, ma foi, que je ne toucherai plus après ces 2 ans. Ça suffit.
Justement, allons-y, plongeons dans cette question qui me paraît à moi fort intéressante. C'est un texte, d'accord? C'est un texte, certes, un texte qu'on pourrait imaginer sorti d'un écrivain, mais vous n'êtes pas écrivain, vous êtes dramaturge.
Même pas dramaturge, je suis un conteur qui raconte des histoires.
Quelle différence est-ce que ça implique d'être conteur ou écrivain ?
En fait, je me dis, celui qui est écrivain, il fait que ça, c'est son métier. Mais moi, je suis comédien, je suis conteur, je suis metteur en scène, je suis le directeur artiste de la Youl. Donc, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc, le conte, le récit, l'écriture, c'est des moments de perdition. C'est quand les mots ne trouvent plus leur place, quand mon imaginaire est en branle. Je prends un papier et j'écris. Alors, je ne peux pas me dire que c'est mon exercice favori, que c'est ce que je fais tous les jours au quotidien. Non, je suis traversé par quelque chose, je le note sur un papier et je donne au comédien et à la comédienne pour que ça prenne vie. Mais ce n'est pas le but d'en faire un livre ou pour sortir, pour les vendre. Non, moi, c'est le but de raconter les histoires. Mais avant de les raconter, il faut les noter sur les papiers, car les mots, c'est comme des pigeons. Tu fais « chut », ça s'envole.
Bah justement, monsieur Ntoyo, on sent que vous êtes transporté par ce spectacle que vous avez porté en votre sein pendant 2 ans. Et là, en face de nous, il n'y a pas que monsieur Ntoyo, il y a aussi 3 comédiennes. Je vois que madame Lefay, si je ne m'abuse, a l'air intéressée par la thématique que j'amène. Comment est-ce qu'on fait, mesdames, et madame Lefay en l'occurrence, comment est-ce qu'on fait pour monter sur un bateau aussi personnel, ce bateau que monsieur Ntoyo portait depuis 2 ans ?
C'est un super joli cadeau. Voilà, parce que c'est le cadeau de la vie.
Ah.
Voilà. Non, c'est chouette de participer à ce joli projet, un texte écrit très poétique sur le parcours de, enfin le parcours sur les trois personnages féminins joliment dessinés qu'on a envie d'incarner. On a envie de que ces mots passent à l'intérieur de nous. Enfin, je suis ravie d'avoir d'être la passeuse.
Madame Monziès, est-ce que vous-même vous sentez passeuse de ces mots ? Est-ce que même parfois dans ces mots vous vous reconnaissez, vous ?
Je saurais pas vous répondre si je me. En général, quand on est comédienne, on est là pour donner à voir une histoire, pour raconter l'histoire. Donc il y a la personne qui l'écrit, celle qui va la dire. Donc on est là pour la raconter. Donc oui, je suis là pour la passer. Enfin, je vais pas passer les mots, je vais passer le sous-texte qu'il y a derrière. En tout cas, dans le rôle que j'incarne, dans la figure que j'incarne, c'est une femme qui va vers sa liberté. Et ça, oui, j'ai envie de le passer très fort. Aujourd'hui, je me sens pas du tout passeuse parce qu'on en est au balbutiement du travail. On entame un travail pour la lecture pour samedi prochain. Enfin, donc dans 2 jours. Bon, on a déjà travaillé pendant 2 semaines en février, mais c'est faut toujours s'y remettre. Le texte a beaucoup bougé, les structures aussi ont changé. Donc aujourd'hui, je vais tenter d'être la plus concrète possible pour permettre aux femmes et aux hommes qui viendront samedi de se sentir concernés, de se retrouver dans les situations. Et ça me fait énormément plaisir de faire ce projet. Oui, parce que je trouve que c'est un projet qui est très fort et qui pour tout le monde, homme ou femme, derrière porte le courage de s'assumer pleinement, de se regarder avec amour, avec compassion. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc je suis ravie d'être là avec Ulrich, qui est plein d'énergie à nous transmettre pour qu'après on puisse donner cette énergie. Donc c'est un beau moyen. Là, je me sens passeuse d'énergie, en effet. Après, aujourd'hui, pas tout de suite, mais ça va venir. Enfin, c'est mon envie, en tout cas.
Madame Maisonneuve, est-ce que vous-même vous sentez similaire à vos camarades ou est-ce que vous avez un ressenti différent vis-à-vis de cette œuvre ?
Ah non, moi, pas du tout. Je suis absolument pas d'accord. Je pense même que je vais quitter les lieux. Non, mais oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Puis voilà, encore une fois, on est au début du travail. Le texte a bougé. Je ne vais pas redire ce que mes camarades ont dit, mais en tout cas, oui, de toute façon, en tant que femme, qu'on se reconnaisse ou pas dans les rôles, on est porté par le sujet, évidemment, par le propos, et puis par la poésie, parce que c'est vraiment un texte très poétique.
Eh bien, justement, parlons de ce texte. Parlons-en très vite avant un petit moment musical, puisque vous l'avez peut-être entendu, chers auditeurs, devant nos chères comédiennes se trouvent des textes. J'ai comme l'impression qu'on va pouvoir en entendre quelques extraits pour se chauffer pour le samedi 21 septembre.
Un petit bout,
oui,
et c'est parti.
Venir.
Un extrait, allez, on y va. Mangoudi.
Voici le soleil au creux de ma main, capturé comme un sourire entre deux rêves tordus d'un être enchaîné. Regardez-le. Il est luisant, grand, beau et fort, c'est pour vous. Servez-vous, arrachez votre part de rêve, posez-le sur le front et laissez les rayons traverser votre être. Brillez comme des petits soleils pour éclairer les temps sombres de votre existence. Alimentez le fleuve asséché de vos sentiments partagés. Dansez sur la cime du temps. Mettez à profit le sacrifice d'avoir tout abandonné pour venir en ces lieux. Vous avez pris un risque. Un risque pour vous confronter à vous-même. Un risque d'être bousculé, dérangé, chatouillé, châtié. Je suis la passeuse des mots. Je suis aujourd'hui. Je suis demain. J'ai vécu à l'envers. Trop vite, j'ai grandi trop vite. J'avais fini le cycle de la vie. Tu es toujours là, toi ? Alors ?
Alors quoi ?
As-tu enfin retrouvé l'usage de tes mots ?
Pourquoi faire ?
Pour remettre de l'ordre dans toi ? Ton passé, ton présent, tes rêves ?
Je vais très bien, merci. Fais pas attention à moi, merci. Je suis invisible, merci. Je ne veux pas faire partie de tes cobayes, merci. Je ne prends pas beaucoup de place, merci. Je suis toute petite, je suis un hérisson. Oui, je butine, je dandine, j'avance à mon rythme, je me recroqueville au bruit.
Tu veux continuellement continuer à butiner quand tu peux faire mieux ? C'est un grand pas qu'il te faut, un vrai saut. Tu ne peux pas te contenter de butiner quand tu es faite pour mâcher, mastiquer, brailler, avaler, manger, marcher, sauter, courir, danser, chanter, chuchoter, pleurer, parler, penser, s'exprimer, dire. Oui, c'est ça, dire, s'exprimer.
Pourquoi faire ? Pour avoir quoi ? Pour gagner quoi ? Pourquoi vouloir des choses quand tu sais d'avance qu'on finit tous allongés dans une boîte ? Enfermés seuls, pas de sous, pas d'amis, pas d'amoureux, pas de maison, pas d'oxygène, pas de soleil, rien, rien, rien de rien. Alors pourquoi vouloir faire ? Pourquoi vouloir avoir ? Pourquoi vouloir des changements ? Je ne veux rien, je ne désire rien, je ne dérange personne. Je ne suis pas de ce monde, rien n'est à moi. Tout est fade, tout est faux, tout est intérêt. Je ne veux pas de ton monde. Je ne veux rien, laisse-moi tranquille.
Si ce monde n'est pas adapté à toi, existe-t-il un endroit bien sur la terre pour toi ?
Je ne sais pas. J'en sais rien, oui, peut-être. Non, non, je ne sais pas.
Pourquoi es-tu là ? Que cherches-tu ? Qui es-tu ? Qui fuis-tu ?
Rien, je ne suis pas là, je n'existe pas. Tu me vois ? Tu me vois pas.
Que désires-tu ? À quoi rêves-tu ? À quoi tu joues ?
Et c'est fini cet interrogatoire. On ne lit pas en moi. Tu ne trouveras rien. On ne fouille pas dans moi. Tout a été formaté, effacé, raillé, gommé. Ne cherche pas à me comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à expliquer. C'est vide. Pas de cœur, pas de sentiment, pas de désir. Je ne ressens rien. C'est vide. Un gouffre.
Et voilà, chers auditeurs, à quoi ressemble une voix qui s'est articulée. Avant de revenir à l'interview de nos amis de la Yule Company, je vous propose qu'on écoute une autre voix qui s'est articulée, celle de Stormzy avec Willy Flo sur le mix des cultures.
Bruv, I didn't look at it this way before, but as I approach my birthday, all you man are my youngers. You man are my youngers, bruv.
If you can't do 10k for a sweet, then I don't wanna hear no chat about numbers. You man are my youngers. All blacked out like grungers. Tens and twenties and hundreds. Tens and twenties and thousands. I can't ever just loud them. On Mount Everest shouting. Soon go back to the mountains. Third album, nigga, I blessed the beat with smoke. And my day one bros, they kept me close. Then I sit in my tent, they take a tour. They're trying to get me on the ropes. I ain't broke, especially in this cold. So please, man, let's just be adults. And don't be flexing in my boat. Nigga, you can't test me, I'm the GOAT. Rolex collections looking dope.
I got the Pepsi and the hoe. And I ain't flexing on you niggas, cause I'll still be sexy if I'm broke. Wait there and I was made to win, like I'm designed to blow. We're doing major things, but it's a minor though. I used to pay for things, but that was time ago. When now I hit you niggas with the wide flow, it's like
bad em up once. Never could you take me for a dance. Been on the scene for 100 months. All I met is bare cunts. Take man for lunch, eat or use, get punch. Pick one boy from your bunch, tell man jump. Oh well, you didn't wanna jump well. Oh well, look now you're slumped, little nigga, I swear.
Little nigga, I swear.
Get out my lane,
get out my lane.
North and east and west are hot, but the south's on flames. This year I'ma be a household name. I grew up in a house of pain. I don't do it for the clout or fame. All the real niggas gonna vouch for my name. All the real niggas gonna vouch for my. Vouch for my. Yeah. 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 If you ain't got more than 5 top 10s, then I don't wanna hear no chat about charting. You man are just starting. Coming like a young Chris Martin. Start swinging with my arms like Carlton. Start swinging with my arms like Anthony. All my niggas been charged, don't amp me. Have you missing a bra and panty? If you see me in a dance, I'm anti. Quite frankly, heavyweight champion of the world. They wanna woo me from my belt. If you ever hear Stormzy caught a nail. No, I stood tall before I fell. There's a couple birthdays coming up, so I took like a quarter from the shelf. Spent like 100 on my mum, then about 140 on myself. The melee I sported like Pharrell, but I got the Nautilus as well. All of these stories that I live, my nigga, these are the stories that I tell. Wait there and I was made to win, like I'm designed to blow. We're doing major things, but it's a minor though. I used to pay for things, but that was time ago. When now I hit you niggas with a wide flow, it's like run up on them man laughing, fuck it. You got a chain but you tuck it, fuck it. Man throw dirt on my name, blood, fuck it. Slew anybody in the family, fuck it. Run up on them man laughing, fuck it. You got a chain but you tuck it, fuck it. Man throw dirt on my name, blood, fuck it. Slew anybody in the family, aye.
Last 3 tunes kinda proved that I did this. Man, what you say, I put a U on my shit list. Must be the same old you in the dinner hall. Primary, sipping on my juice and my biscuits. I'm from a place where you move to the witness. Staring your face, feeling business of business. Came for the fame, but she stayed for the litness. Ask your new girl, she loves Mr. Skangle.
Never ever see me with guys known for verbals. My brothers pull up a sky, no rehearsals. Don't switch sides, there's no role reversals. Hug the best spitter and grime, so commercial. Wait, nobody said you're good, done your chat. Your girl tech the wood lumberjack. Hit him with a lighter flex, humble brag. I can't drop the bag, I'm the bag.
Yeah.
Yeah. If you ain't got no platinum plaques, then I don't wanna hear no chat about.
No, I'm joking, man.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et nous sommes de retour avec la Yule Company qui nous a laissé un petit peu vibronnant, je ne sais pas où je vais avec cette expression, qui nous a laissé dans un drôle d'état après cette petite lecture d'extrait. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous voulez nous relire un extrait ou est-ce que vous voulez plutôt qu'on parle du spectacle, notamment de l'aspect mise en scène du spectacle ?
Ce qui est super, en fait, c'est de parler un peu du spectacle, du projet qui, depuis deux ans, être en train de mijoter entre nous, comment on le crée, comment on le pense, parce qu'aujourd'hui, on est presque prêt pour dire on va lancer la production, même si ma compagnie et l'équipe un peu qui m'accompagne, mon administrateur et tout le reste, mon assistante et tout ce monde-là, on était un peu fragile parce que le texte n'était pas fini, et que les négociations pour la production, pour créer le projet était un peu en berne, on était en hésitation. Aujourd'hui, je sais que le texte est écrit, il est définitif, donc du coup, on peut lancer la machine, parce que c'est un texte qui est parti jusqu'au Congo, parce que ce qu'on n'a pas raconté avec Adeline, on est parti quand même livrer quelques mots, un extrait de ce texte à Brazzaville, pour voir comment les gens réagissent là-bas, comment ils peuvent recevoir ces mots des femmes, ces femmes qui sont dans une extrême douleur, et ces femmes qui racontent leur histoire, ces femmes qui livrent un peu leur intimité, qui ouvrent leurs portes, comment ces mots étaient reçus. Donc du coup, on a eu un petit moment comme ça de partage avec le public brazzavillois et même ponténégrin. Et aussi, on a eu une grande expérience avec Lucie et Adeline encore, et toute la bande, en fait. On a lui ici à Rouen. Donc aujourd'hui, on se dit, après les lectures, après l'expérimentation, on veut lancer vraiment la production de ce projet et qu'on pense à les créer en décembre 2021, c'est ça?
Attends, on est en 2020
à Brazzaville. Parce qu'il faut monter maintenant toute la machine de la production, il faut trouver les sous, il faut trouver les théâtres qui nous reçoivent, il faut chercher toutes ces boîtes-là pour que le spectacle se crée vraiment. Parce que ça fait 2 ans, oui, on a été accompagné par des temps de création, des temps de recherche, mais aujourd'hui, il faut être accompagné pour créer, pour montrer le spectacle au grand public. Et là, c'est la machine qui prend son relais après cette lecture du 21 à Gramont,
À 14h30 à la bibliothèque Simone
15h30. Il faut réserver. Si vous ne réservez pas, vraiment, après, il n'y aura plus de place parce que là, les places sont en train de se remplir. Et ce serait chouette de réserver au 02 76 08 80 88.
On essaiera de rappeler le numéro tout à l'heure. Juste une question rapide comme ça qui m'anime, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je suis obligé de taper dans l'efficacité. On s'est rendu compte du talent des comédiennes, on s'est rendu compte du talent de l'auteur. Parlons un petit peu mise en scène, parce que malheureusement, pour l'instant, on ne se rend pas bien compte. Ici, bien sûr, j'imagine que les auditeurs s'en rendent encore moins compte que moi. Comment est-ce qu'on met en scène un spectacle comme ça, un texte aussi fort ?
Ben, la mise en scène, c'est encore une autre réécriture du texte, en fait. C'est une réécriture du texte, c'est un rêve, comme si j'ouvrais une porte et les choses qui se dessinent. Et cette mise en scène-ci est écrite sur les corps des comédiennes. Il n'y a pas d'accessoires solides, mais sinon soigner les corps des comédiennes, travailler les corps des comédiennes, ce théâtre-là était un théâtre, on va dire, que ça, j'appelle ça un théâtre pauvre. Celui qui se dessine sur les corps des actrices, en fait, je vais travailler avec leur corps. Ce qu'on a, la première matière que j'ai entre mes mains, ce sont les comédiennes et le texte. Donc, en ayant ces deux matériaux-là, qu'est-ce que j'en fais ? On modèle un spectacle, on crée des rendez-vous, on crée des rencontres, on crée des séparations, on crée des mariages, on crée des crises. En fait, c'est comme un vrai coach, quoi. Et déplacer les pièces d'un puzzle, voilà, c'est un peu ça. Les échanger, organiser. Après, moi, dans cette mise en scène-ci, qui est un acte de la vie, de raconter des histoires de femmes, je ne vois pas créer un mystère pour ramener des effets. Non, ce n'est pas ce théâtre-là que je veux. On va dessiner avec ce qu'on a, les corps et l'espace. Après, il y a une intervention. On va travailler avec Florence, qui est circassienne, qui va nous travailler un peu sur le hamac. Un hamac qui sera un lieu où chaque femme, quand elle monte, quand elle y touche, elle vient se livrer, elle peut se lâcher, l'espace de la liberté totale même. C'est cet endroit-là et c'est le hamac qu'on a comme accessoire solide sur la scène.
Mais j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir encore, Monsieur Ntoyo, puisque comme pour beaucoup d'interviews, on en a encore faim quand on a fini. Mais malheureusement, le temps commence à nous manquer. Ah, moi, j'ai envie de vous poser 1000 questions, Monsieur Ntoyo.
Ah ben, un extrait quand même, on aurait pu lire.
J'escompte bien vous les poser dès qu'on sera sorti. Mais malheureusement, question de temps, nous allons commencer à être un petit peu pauvres, malheureusement. Alors, on vous salue, bien sûr. Je vais réessayer ce petit exercice de dire les noms pour vérifier que je ne me trompe pas. Donc, nous sommes et nous remercions Anne-Sarah Faget. Excusez-moi, Madame Faget. Nous remercions bien sûr Monsieur Ntoyo, Ulrich Ntoyo. Nous remercions Madame Adeline Maisonneuve, oui. Madame Lucie Monziès et Madame merci, Sophie Lefay pour leur présence. Et puis bien sûr, nous remercions nos chers auditeurs pour leur présence aussi.
Et à samedi, hein.
Et à samedi, bien
samedi,
sûr.
Samedi 15h30, médiathèque de Grammont. 15h30. Sera, venez tous.
Ne vous fiez pas au site de la Yule Company, cher camarade, qui dit 14h30, c'est bien 15h30. Et le numéro pour réserver, Monsieur Ntoyo, puisqu'il faut réserver.
Le 02 76 08 80 88.
Super, et ben je vous laisse là-dessus, chers amis, et ne loupez pas ça. Ce sera bien sûr samedi à 15h30. Salut à tous et à demain.